Je crois à l'influence immense des images.
On voit arriver dans les équipes de cinéma des femmes, des jeunes femmes qui se sont dit « Mais le son, ça m'intéresse. Il y a des cadreuses, il y a des directrices de photographie. »
Offrir au monde tous ces récits manquants, toutes ces femmes, toutes nos mères, toutes ces femmes noires qui n'ont pas eu la parole.
Il y a des filles à la régie, à l'administration.
Et puis ensuite, elles ont été aussi souvent filmées par des hommes. Donc là, on ouvre une nouvelle page de cette histoire.
Notre silence ne nous protégera pas. Eh bien, j'ai envie de dire ce soir que nous ne nous tairons plus. Merci beaucoup.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sorociné, le podcast de cinéma féministe. Je suis Marianne Agier, et aujourd'hui, dans ma super équipe, j'ai le plaisir d'accueillir à mon micro Lisa Durand.
Bonjour.
Et Diane Lestage.
Bonjour.
Ce mois de mars, nous étions partenaires de la 46e édition du Festival du film de femmes de Créteil, qui met à l'honneur depuis près de 50 ans le cinéma des réalisatrices. Au programme de cette édition, on a eu entre autres des rencontres avec Vanessa Springora, Marie-Ange Luciani, la productrice du maintenant très connu Anatomie d'une chute, Léa Drucker ou la réalisatrice allemande Monika Trott. On a eu également une soirée dédiée aux femmes caricaturistes et une programmation spéciale cinéma de genre au féminin. Mais surtout, cette édition 2024 a été marquée sous le signe du sport, en écho avec une actualité nationale des plus brûlantes, avec un cycle intitulé « Olympe se bouge » qui revient sur les représentations des femmes dans le sport, avec une dizaine de longs-métrages programmés, un colloque et des ateliers. Alors pour l'occasion, on s'est penché sur la question. La pratique sportive, notamment en compétition, a longtemps été confisquée aux femmes. Pour rappel, à la création des JO en 1896, les JO tels qu'on les connaît aujourd'hui, son créateur Pierre de Coubertin interdit la participation des femmes. Il s'en expliquera en 1935 dans un discours où il affirme que le rôle des femmes dans les Jeux Olympiques est, je cite, « de couronner les vainqueurs ». Il faut attendre 1900 pour que des femmes y participent pour la première fois, au nombre de 22 contre 975 hommes, dans des disciplines dites « compatibles avec leur féminité », c'est-à-dire le tennis, le golf, la voile, le croquet et l'équitation. En réaction à cela, c'est donc en 1922 que les femmes se créent leur propre espace dans les Jeux Olympiques, avec la création de Jeux Olympiques féminins par la sportive et militante Alice Milia. Et jusqu'en 2000, certaines disciplines olympiques étaient encore interdites aux femmes, comme le saut à la perche, le water-polo ou l'haltérophilie. Cette absence, elle se reflète aussi dans nos représentations, puisque les portraits fictionnels ou documentaires de femmes sportives sont rares, encore aujourd'hui, dans l'histoire du cinéma, ou, quand ils existent, représentent souvent l'occasion de perpétuer un male gaze autour de ces personnages de femmes sportives. Donc pour tenter de défaire ce triste constat, interrogeons-nous aujourd'hui sur la façon dont les femmes sportives sont représentées dans la fiction et sur les trames narratives qu'on rencontre. Au programme de ce super marathon cinématographique, on revient en particulier sur quatre films, Hard, Fast and Beautiful, en version française « Jeux, set et match » d'Ida Lupino de 1951, qui a fait l'ouverture de cette édition du Festival de Créteil, le film « Bliss » de Drew Barrymore de 2009, « L'Éventé » de Lila Alla sorti en 2023 et également présenté à Créteil, et « Aitonia » de Craig Gillespie sorti en 2017. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, et puisque ce thème nous a un petit peu donné la bougeotte, une petite question, Diane, Lisa. C'est quoi votre rapport au sport et est-ce que vous avez un sport de prédilection?
Alors,
Lisa.
Moi, mon sport de prédilection, c'est la natation. J'ai grandi à Marseille en plus, donc c'est une ville de bord de mer. Donc, mon père m'a appris à nager en piscine municipale et à la mer assez vite et j'ai gardé cet amour de la natation. Je trouve que c'est un sport très relaxant. J'en ai fait beaucoup d'autres dans mon adolescence. J'ai fait pas mal d'aviron, j'ai fait de l'athlétisme, du karaté, de la danse aussi, du modern jazz. Mais la natation, c'est le sport qui me reste et je pratique le roller derby depuis un an maintenant. Mais la natation, c'est le sport qui l'emporte sur tout. Il n'y a pas plus relaxant que de faire des longueurs sur le dos, je trouve. Et toi, Diane?
C'est pas du tout pour copier, mais moi aussi, la natation, c'est le sport que j'ai pratiqué toute mon enfance, adolescence. J'ai fait la compétition tout le collège. Et c'est l'activité que je maîtrise le mieux, globalement, dans ma vie. Genre, la pratique que je maîtrise le mieux. Et après, moi, j'ai fait que des sports, j'en suis rendu compte qu'il y a pas longtemps, que des sports, en fait, individuels, mais où t'as une équipe quand même, enfin, où t'es en crew, genre, que ce soit la danse, la gym, l'équitation, la natation, c'est vraiment des sports où, ouais, j'étais en club à chaque fois, donc où t'es avec d'autres personnes, mais tu crées une équipe, mais en fait, tu fais du sport pour toi quand même, individuellement. Et toi, Marianne?
Bah moi du coup j'aime bien aussi la natation, j'ai aussi eu une petite phase escalade, j'ai joint cette sorte de grande secte actuelle de l'escalade avec des salles qui fleurissent un peu partout et qui coûtent extrêmement cher. Mais moi, c'est surtout la course, si je devais en choisir un. En fait, j'étais pas du tout sportive jusqu'à la période du Covid, comme beaucoup de gens. Et voilà, le contexte général de pandémie, plus le fait de rester sans bouger pendant 3 mois dans mon petit appartement, font qu'au bout d'un moment, j'ai eu un petit peu la bougeotte aussi. J'ai un peu commencé à courir et puis voilà, j'ai quand même. Enfin, moi, en tout cas, c'est un sport qui me fait beaucoup du bien, qui pousse aussi beaucoup à la performance, que ce soit en termes de timing ou de durée, et qu'on peut pratiquer en solo. Moi, c'est un petit peu ce que je préfère par rapport au sport d'équipe. Donc voilà, plutôt une runneuse de mon côté.
Bah, c'est parfait parce que, en plus, toi qui cours beaucoup, Mariana, on va parler de tennis. Donc ça a grandement à voir avec tous les sports qu'on a cités.
On va donc s'attaquer au seul sport qui n'a pas été cité ici, mais qui a été cité en introduction dans les sports dits féminins. C'est le tennis, donc avec le film d'Ida Lupino, Hard, Fast and Beautiful.
Congratulations, Miss Farley. Here's to our new national champion.
Oh, thank you.
Congratulations to you, Miss Walters. Splendid match.
Hold it, Miss Farley. Thank you.
Hold a couple of higher, Miss Farley. Thank you.
Oh, Mother. Oh, baby. You were just wonderful.
Very proud of you, Flora.
Hey!
Oh, Father.
Hi, baby. The television wasn't close enough.
I didn't think I knew you were here.
Well, you should have. I was cheering loud enough from up there.
What's the deal now, Miss Farley? Think you'll turn pro? What are your plans?
Well, I don't know. I haven't discussed it yet with Mr. McKay.
Does that mean you might be quitting the game?
Yeah, sure, except on Sundays. Then you can spot me 30 points, aren't you?
Diane, est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, tout à fait. Déjà, peut-être dire un petit mot sur Ida Lupino pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ida Lupino, elle est plutôt connue à la base pour être actrice, notamment chez Raoul Walsh ou Nicolas Ray. Elle avait ce goût de choisir ses rôles et elle a arrêté son contrat avec la Warner à 27 ans pour fonder sa boîte de production avec son mari de l'époque. Et donc, elle était aussi productrice et scénariste et elle a fini par réaliser 6 longs métrages avec cette boîte de production. Et notamment, elle a abordé des sujets dans les années 50 dont on parlait pas, que ce soit la grossesse non désirée, le viol ou la bigamie. Et avec ce film qui est son 4e film, donc « Je, c'était match » en français, elle s'attaque à un personnage féminin qui est une sportive, une jeune sportive. Et c'est vrai que c'est, pour les années 50, c'est assez fou de... Voilà, aujourd'hui, les films de sport, comme t'en parlais en introduction, Maria, sont assez rares avec des personnages féminins. Donc dans les années 50, c'est du coup un film qui fait un peu, qui est un peu pionnier du sport au féminin. Déjà, savoir que le tennis est un sport bourgeois quand même, et que du coup, c'est aussi un petit peu la problématique du film. C'est l'histoire de Florence Farley, une jeune fille qui tape d'une main des balles contre un mur, et dont la mère, une sorte de personnage vampirique, on sent qu'elle est frustrée dans sa condition sociale, et c'est son ambition à elle qui est passée pour elle-même, elle va la mettre sur sa fille. Et en même temps, un personnage qui va rencontrer un garçon. Et en fait, on sent que c'est un film qui est une sorte de critique de la compétition et du culte de la réussite, quelque chose de très américain et qui vraiment prend racine dans les années 50. Le personnage, voilà, s'émancipe. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est assez triste, c'est que, elle préfère vivre une histoire d'amour que de faire du sport. Et en fait, ce n'est pas son ambition à elle de faire du sport, c'est celle de sa mère. Donc, je trouve qu'il y a quand même vachement de choses problématiques dans ce film, malgré des qualités certaines et plutôt avant-gardiste.
Oui, parce que l'intrigue de l'histoire, grosso modo, ça va être que sa mère va vouloir la pousser vers des compétitions de plus en plus haut placées, alors que elle, en fait, de l'autre côté, elle est tiraillée vis-à-vis de cet homme avec qui est en train de naître une histoire d'amour. Grosso modo, la morale du film va être que Florence va laisser tomber le sport qui n'était de toute façon pas son choix à elle pour aller vivre une vie de famille, parce que le fait de se marier impliquera pour elle le fait de laisser tomber le sport.
Et c'est ça qui est un petit peu triste. Enfin, on voit bien que c'est soit tu fais carrière en tant que jeune fille célibataire, soit tu te maries, et même avec un personnage masculin qui a l'air très gentil, très aimant, mais en fait, il lui dit c'est quand même la femme à la maison, si on se marie, t'arrêtes le sport, sinon on se marie pas, quoi.
Oui, il y a quand même une scène où, certes, c'est un personnage masculin qui est plutôt doux, mais quand même qui est dans une figure assez paternaliste, je trouve, parce que tout de suite, il la piège quand même, il y a cette scène où il lui offre un bijou, il lui met un collier autour du cou, et ça fait vraiment, je te mets la bague au doigt et je je t'enferme. Et il y a quand même aussi cette scène où elle est payée pour donner des cours de tennis à une riche héritière, je crois. Et lui, quand il découvre qu'en gros, elle fait payer pour ses capacités, parce que c'est une bonne joueuse de tennis, eh ben, ça la rend tout de suite, il y a quelque chose de l'impureté, en fait. Dès que c'est une question d'argent, lui supporte pas que cette passion, elle puisse en vivre, ce qui est tout le contraire de sa mère, comme tu disais, qui est une femme assez vénale, qui veut sortir de sa condition de ménagère. Elle fabrique des robes, notamment pour sa fille, et qui vit dans, c'est un foyer de l'Amérique ouvrier, ou entre la classe ouvrière et la classe moyenne, c'est un peu dur à définir. Et il y a ce père qui est un peu laissé sur le côté, qui est plutôt un père, lui aussi aimant. On n'a pas des figures masculines hyper répressives, mais on sent quand même le poids assez paternaliste d'une société quand même des années 50. On est encore dans les années du code Hays, donc il y a des scènes avec les parents qui dorment, même pas dans le même lit, dorment dans des lits qui sont l'un contre l'autre. C'est très bizarre, mais c'est très marrant à regarder.
Après, ça, j'ai remarqué ça dans le film, qu'il y a un travail de mise en scène assez intéressant justement autour de la séparation, qui est la séparation du cours de tennis et de cette ligne de démarcation, qu'on retrouve notamment justement dans cette scène-là, ou aussi au tout début du film quand Florence rencontre Gordon, à travers le mur, le grillage, c'est-à-dire qu'il y a toujours, dans sa mise en scène, elle a vraiment réussi à placer le cours de tennis un petit peu partout. C'est assez intéressant ça, par contre, en termes de représentation.
Oui, t'en parlais aussi, la façon dont elle le fait, juste qu'elle filme le tennis, c'est quand même un truc qu'il me semble qu'on n'avait jamais vu au cinéma.
Oui, en fait, à l'époque, techniquement, c'était pas possible de filmer du tennis. Il a fallu attendre la télévision qui a mis en place un système pour pouvoir filmer un cours. Et ça, c'est... Elle arrive quand même à montrer, même si je trouve que le tennis arrive très tard dans le film. Enfin, je crois qu'il y a 20 minutes avant que vraiment on voit enfin. C'est-à-dire que le personnage a déjà commencé son ascension. Et nous, en tant que spectateurs, on est un peu frustrés parce qu'il faut 20 minutes avant de voir enfin quelques échanges pendant un match de compétition. Mais en même temps, voilà, c'est la première fois qu'on arrive à avoir ce cours.
Oui, au final, c'est ce qui est assez dommage, c'est que le tennis ne semble pas être l'enjeu principal du film, ou en tout cas plus un prétexte pour aborder la question de cette relation mère-fille et coach-élève. Du coup, c'est il y a un peu une substitution des deux, qui est un schéma qu'on retrouvera un peu ailleurs dans d'autres films qu'on va traiter. Pour moi, ce film-là, c'est aussi un film qui reste très ancré dans son époque, dans le sens où on sent que Lupino a eu du mal à se défaire aussi des injonctions des studios. C'est un film qui est produit, distribué par la RKO. Moi, j'avais été assez choquée par le fait que ça s'avère... Enfin, je parlais de la fin tout à l'heure, c'est une fin qui est extrêmement moraliste, extrêmement conservatrice. Il y a vraiment ce plan final où la fille laisse la mère pour partir se marier avec cet homme. Et la mère reste seule, elle va un peu quémander de l'attention auprès de son entraîneur qu'elle essaye plus ou moins de séduire. L'entraîneur la laisse toute seule et elle se retrouve assise toute seule sur sa chaise à contempler le vide. Enfin, j'ai trouvé ça extrêmement moraliste de la part d'une réalisatrice qui a quand même réalisé Outrage. Enfin, c'est quand même assez bizarre, enfin, qu'on se retrouve sur un truc finalement très 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 classique, avec des personnages que j'ai pas trouvé très intéressants, en tout cas pour le personnage principal. Celui de la mère, au final, il est plus intéressant à analyser, mais ce personnage de la jeune femme, moi je le trouve très naïf, un peu agaçant, honnêtement, sur pas mal d'aspects, en tout cas jusqu'au stade de la confrontation avec sa mère qui arrive à peu près aux trois quarts du film.
Justement, moi je me demande si ce personnage de mère, c'est elle qui représente en fait toute une Amérique conservatrice, patriarcale. En fait, pour moi, c'est vraiment ce qu'a voulu montrer Ida Lupino à travers ce personnage, c'est justement cette critique de l'Amérique telle qu'elle était. En fait, ce qui est horrible, c'est que c'est un personnage féminin. Mais en fait, c'est en même temps assez fou de se dire qu'elle critique ça, donc elle va la laisser de côté et... Je sais pas, je trouve qu'il y a un truc assez beau quand même.
Ouais, et puis même si on parlait de cette tradition très classique de la narration à l'américaine, qui est un peu genre le rise and fall, quoi, et finalement on se dit, est-ce que c'est pas tant un film dont le personnage principal est la mère, et c'est elle qui vit vraiment ça, que ce personnage de jeune première qui au final demande toujours l'avis à sa maman. Quand elle demande pas l'avis à sa maman, elle demande l'avis à son futur fiancé. Donc au final, est-ce que c'est pas tant la mère qui est le personnage principal, et c'est elle qui vit vraiment parce que ce dernier plan, comme tu disais, où elle se retrouve toute seule sur le court, en plus on entend ce court de tennis abandonné, mais il y a toujours la balle là qui revient comme un échange incessant. Et c'est un peu, oui, c'est ce personnage, et c'est ça, c'est dommage qu'il soit féminin, mais qui est tourmenté comme n'importe quel autre personnage masculin de ces années-là, qui avait quand même le droit à plus de récits un peu plus permissifs, même dans quelque chose d'assez négatif, selon les restrictions du Code Hays quand même, hein, parce qu'on n'avait pas le droit à tout. Mais oui, c'est vrai que ça fait encore d'autant plus mal parce que c'était un personnage féminin plutôt mature pour le coup.
Oui, d'autant plus que ce personnage-là de la mère, moi j'ai trouvé le plus intéressant du film, et notamment, tu le disais, Diane, parce qu'il y a toute cette thématique de la frustration sociale de laquelle la mère part et qui va alimenter l'acharnement qu'elle porte sur sa fille pour la faire évoluer, avoir des compétitions de plus en plus haut placées, aller partir en Europe, aller dans des beaux hôtels, etc. Enfin, il y a aussi toute cette idée de s'extraire de cette condition-là, cette idée justement du en tout cas du sport comme moyen de s'extraire d'un milieu social. Moi, je fais la remarque, en tout cas en regardant ce film, c'est une thématique qu'on retrouve énormément dans beaucoup de films qui traitent du sport de manière générale, d'autant plus quand il s'agit de personnages féminins. C'est assez intéressant parce que c'est aussi très associé à tout le discours qu'on a autour du care, qui est cette manière de dire que le soin, notamment le soin psychologique ou social, va être quelque chose d'essentiellement féminin. Et le fait que le sport chez les femmes est aussi une manière de s'extraire d'un milieu social et d'extraire sa famille d'un milieu social, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Ça m'a fait beaucoup penser au film Million Dollar Baby de Clint Eastwood, qui est un des films les plus populaires en fait quand on évoque les femmes sportives au cinéma, qui là va se concentrer sur une femme, sur la relation d'une femme boxeuse avec son entraîneur, qui est incarné par Clint Eastwood. C'est un film qui est très populaire mais que je n'aime pas beaucoup. je l'ai vu pour la première fois il n'y a pas très longtemps pour préparer cet épisode, mais où c'est très très représentatif du genre, parce que cet aspect social, il est traité sur un aspect hyper hyper misérabiliste et très genré, puisque c'est donc le personnage d'Hilary Swank qui joue une boxeuse qui pareil va faire des compétitions de plus en plus prestigieuses et qui va utiliser tout cet argent qui est issu de ses matchs de boxe pour donner un foyer vivable à sa famille, qui en plus sa famille qui coche toutes les cases du bingo de la misère sociale. Enfin là on est vraiment sur comment les Américains traite la précarité sociale, ça donne un film comme celui-là. Donc je me suis dit que voilà, c'était en tout cas une thématique assez genrée et qui était vraiment commune à plein de films. Et en parlant d'émancipation sociale ou d'émancipation tout court, direction le deuxième film qui est Bliss de Drew Barrymore. If I could have dinner with anyone, it would have to be God. My mom. It's gonna kill me. It says temporary. Also from Bodine, Miss Bliss Cavender.
What is this?
Roller derby?
Ooh. Welcome to skate night at the warehouse. The boys wanna be hurt.
The girls wanna be hurt. Clean up on aisle five.
I just want to tell you all that you're my new heroes.
Well, put some skates on. Be your own hero.
The last time I wore skates, they had Barbies on them.
I want to be her.
I guess if you knew.
You could be our mascot.
Lisa, est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, il faut s'imaginer, on est en 2009, donc Elliot Page surfe sur le succès de Juno, qui est sorti 2 ans plus tôt, donc réalisé par Jason Reitman et écrit par Diablo Cody. Il devient la star d'un autre teen movie qui marquera, selon moi, les années 2000. Ce film, c'est Bliss, ou alors en anglais Whip It, réalisé par l'actrice, scénariste et productrice Drew Barrymore. C'est son seul et unique long métrage. Le film, c'est une adaptation d'un roman young adulte de Shauna Cross qui s'appelait Derby Girl. Et il faut savoir que Shauna Cross, à la base, elle est scénariste, donc elle est co-scénariste de Bliss. Donc l'action de Bliss se déroule dans l'état conservateur du Texas, dans la petite ville fictive de Bodine, qui rime avec Jolene de Dolly Parton, en référence à une scène du film. Donc Bliss est une adolescente assez timide qui va trouver sa voie en s'éloignant un peu des concours de beauté qui sont imposés par... elle a une mère qui est assez stricte comme ça, très wasp, pour découvrir le roller derby et rejoindre l'équipe des scouts hurlantes. Et Bliss, c'est une énième variation sur le teen movie que moi je trouve plutôt réussi. Et j'avais vu le film en salle quand il est sorti, donc moi j'avais 15 ans quand c'est sorti, je pense, Bliss.
Petite correction, le nom de l'équipe dans la version française, c'est les scouts gerbantes et non pas les scouts hurlante.
Ah ok, parce que dans la version originale, je crois que c'est les Howling Scouts.
Bah, du coup, oui, parce qu'en plus, elle lui dit... c'est un peu ce que dit le personnage, ouais. Je crois, au tout début. La première fois, elle fait... Mais du coup, est-ce qu'il y a beaucoup de filles qui vomissent?
Eh ben, my bad. Merci pour ce nota bene.
Enfin, on reviendra de toute façon sur l'aspect assez violent et exacerbé du film. Mais le roller derby, toi, c'est quelque chose que tu connais bien, Isa?
Quelque chose que je connais bien, je vais pas trop m'avancer. Moi, ça fait un an que je pratique le roller derby. Donc, le roller derby, c'est un sport qui est né dans les années 20 à Chicago. Elle se pratique sur ce qu'on appelle des roller quads, donc c'est-à-dire des patins avec vous avez deux roues devant, deux roues derrière, et ça se pratique en équipe de deux. C'est possible en mixité, mais en général, c'est plutôt un sport féministe et donc féminin, et qui a explosé notamment, enfin dont la popularité a explosé avec la création des courses de 24 heures en roller. Donc le roller derby, c'était très populaire parce que c'était diffusé à la télé américaine dans les années 60, comme le catch. Et c'est même arrivé en France à partir de 1936, sauf que nous, on n'appelait pas ça du roller derby, on appelait ça du roller catch. C'est une discipline qui a un peu disparu dans les années 70 et qui est relancée au début des années 2000 au Texas. Maintenant, le roller derby, c'est devenu un sport international, donc à prédominance féminine, qui compte des clubs partout dans le monde. Il existe évidemment des équipes masculines, mais pour une fois, les équipes féminines sont en majorité. Il faut savoir que dans le film, enfin, magie du cinéma, mais qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de phases de jeu qui sont quand même pas très représentatives du sport. Il y a beaucoup, énormément de coups interdits qui sont joués dans le film. Beaucoup de ces coups sont d'ailleurs donnés par le personnage de Drew Barrymore, Trashley Simpson. Mais bon, pour rendre évidemment le film beaucoup plus ludique, je trouve que le film explique assez bien comment est censé fonctionner un match de roller derby. Il y a beaucoup de personnages de l'équipe de Bliss qui lui expliquent, et ensuite le personnage du commentateur qui est joué par Jimmy Fallon. Je me suis renseignée, apparemment ce genre de personnage est un personnage, moi je l'ai trouvé un peu rétrograde, mais apparemment c'est un personnage qui est assez réaliste lors des matchs. Il faut savoir notamment qu'en France, le roller derby, même si on voyait ce que c'était dès les années 30, il est vraiment arrivé, c'est Bliss qui a vraiment lancé la pratique du roller derby en club en France, donc à partir de 2010. Et maintenant, en France, on compte plus de 60 clubs et à peu près 4500 licenciés, donc c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, je tiens à remercier pour ces petites recherches mes coéquipières à la Cata, qui est une ligue mixte de roller derby composée d'une équipe masculine, les Calbrutes, et d'une équipe féminine, les Tamponneuses. Donc on a à peu près une cinquantaine de tout âge et de tout niveau.
Et, donc, et on les salue.
Ben, je les salue bien fort. Et surtout, Bourgeois, Boubou Slayer et Fatal Zephyr, qui ont les Dermindem les plus cools de la Terre et qui ont fait ces petites recherches pour moi.
Et tu mentionnais le fait que c'est un sport avec une grande charge féministe. C'est pas du tout anodin, du coup, le fait que Drew Barrymore ait pris ce sport-là pour faire son film ?
Ouais, moi, je trouve qu'il y a une forme de logique sur le fait que Drew Barrymore ait voulu réaliser ce film. Bah, déjà, on lui a envoyé le scénario via sa boîte de production, Flowers Film, qui existe maintenant depuis les années 90, qui a produit Donnie Darko, qui a produit Charlie's Angels, qui a produit beaucoup de films dans lesquels joue Drew Barrymore, en fait. On lui avait envoyé le livre Derby Girl, donc Shona Cross, et ensuite toutes les deux, elles se sont mises, Drew Barrymore était vraiment très, avait vraiment envie d'adapter cette histoire, et elles se sont mises à écrire plusieurs versions ensemble, mais je pense que c'est vraiment... Il y a cette image aussi qu'elle véhicule Drew Barrymore, c'est l'ex-enfant star d'Hollywood des années 80, dans le plus grand succès des années 80 qui était E.T. C'est devenu l'ado rebelle des années 90, et cette figure hyper populaire des années 90-2000 où elle jouait des personnages qui étaient des personnages qui dégageaient ce qu'on pourrait dire une féminité un peu alternative, et le fait qu'elle veuille offrir à un jeune public, mais plutôt de jeunes femmes, un film qui parle que de ça... Je trouvais qu'il y avait un espèce de cercle un peu comme ça où Drew Barrymore peut-être faisait aussi ce film pour la jeune fille qu'elle avait été, quoi.
Oui, en parlant de féminité, un truc qui m'a frappé en le revoyant là, vous direz ce que vous en pensez, mais pour moi, il y a un énorme sous-texte queer dans ce film. J'ai trouvé ça presque étrange que le personnage d'Elliot Page soit hétérosexuel, parce que je pensais vraiment... En plus, il y a une petite scène au début où elle a un eye contact avec une fille qu'elle connaît, et du coup, je pensais vraiment que du coup, c'était une manière de porter un discours lesbien, ou en tout cas queer. En plus, il y a tout un discours dans le film qui fait énormément référence à cette équipe comme une famille choisie. dit, c'est une thématique qu'on retrouve énormément dans toutes les représentations queer au cinéma.
Ouais, moi là, je pense que c'est vraiment la temporalité du film qui impose ce regard-là. C'est un peu un de mes seuls regrets, c'est que justement le film ne soit pas plus queer, même si on a quand même une équipe assez inclusive et tout. J'ai lu un petit peu des récits de personnes qui avaient écrit sur le film et qui pratiquaient le roller derby et qui elles aussi disaient que pour un sport à l'ADN si féministe, si inclusif et queer, c'était un peu dommage qu'en effet la seule relation amoureuse mise en valeur à l'écran, bah oui, en effet, c'est une relation hétérosexuelle, mais bon, bah problématique, je pense, de même si c'est un petit film indé, quand même distribué à visée d'adolescents. On venait de sortir de Juno, on venait de sortir de Super Grave, donc je pense qu'il n'y avait pas de place pour. Et même Jennifer's Body qui a eu le même problème, où il y a un sous-texte, enfin, si on peut appeler ça un sous-texte, il est tellement gros, lesbien, mais qui sort dans les mêmes années, où ben, clairement il y avait des exécutifs de studio qui ne voulaient pas trop entendre parler de ces histoires-là. Je ne sais pas si c'est peut-être dans une version du scénario.
Diane.
Je suis complètement d'accord, mais surtout avec le fait que cette histoire, elle est complètement inutile, ce love interest, en fait. T'enlèves tout cet arc narratif du film, le film ne perd rien, en fait. Parce qu'elle s'émancipe par le sport, par la découverte de cette bande de nanas, avec cette scène de piscine. Enfin, pourquoi dans tous les films, faut aller la nuit en secret dans une piscine pour choper, enfin.
Je suis assez d'accord sur le personnage d'Oliver qu'on pourrait qualifier, on en avait déjà parlé sur les films de Noël, mais qui est un peu le manique pixie dream boyfriend, là. En plus, option indie sleaze des années 2000. C'est ce qui donne cet aspect un peu Sundance aussi au film.
C'est vraiment le rock indé tel qu'on le concevait au milieu des années
vraiment
2000,
2009.
Quoi.
Enfin, ouais. Vraiment, c'est ça. Enfin, c'est tous les groupes qu'on écoutait.
Ah bah, sur la BO, il y a les Strokes.
Rock, voilà, de pop rock, punk rock. Enfin.
Mais je suis assez d'accord sur cette histoire d'amour qui est un peu sur le côté, alors qu'il y a une histoire qui est vachement plus belle, c'est celle entre Bliss et Pash, qui est sa meilleure amie, qui est jouée par Alia Choquette, qui est un peu l'une des queens du cinéma indé américain, et qui est pour le coup une relation que je trouve vachement plus intéressante à traiter. Elles ont vraiment une relation de sœurs, voire une relation amoureuse toutes les deux, et toute l'équipe justement des scouts qu'elles rencontrent, le personnage de Kristen Wiig qui on découvre est finalement mère célibataire, même tous ces autres personnages qui sont un peu des grandes sœurs de substitution, même le personnage antagoniste de Juliette Lewis aussi, qui se révèle aussi être une grande sœur de substitution, sont plus intéressantes qu'en effet que cette amourette un petit peu sur le côté, quoi.
Mais justement, enfin, moi, pour tout vous avouer, je n'ai pas du tout vu ce film à l'époque. Je l'ai vu pour la première fois la semaine dernière. En fait, je l'ai jamais vu parce que je pensais que c'était un teen movie girly et que à l'époque, c'était vraiment pas ce que je regardais comme cinéma quand j'étais au collège lycée. Et du coup, je l'ai découvert là et j'étais assez surprise de ce côté rébellion, rock, marginal, enfin en plus un côté joyeux en fait. Et je trouve que c'est assez rare d'avoir une rébellion joyeuse, décomplexée et comme tu disais, enfin cette bande de nanas, cette équipe de roller derby, enfin je trouve que les personnages sont assez bien écrits. Et pour 2009, enfin, en fait, les personnages auraient pu écrire plutôt aujourd'hui qu'il y a 15 ans.
D'ailleurs, moi, c'est un film qui m'a énormément fait penser à un film sorti il y a quelques mois. Vraiment, dans cette peinture d'un usage de la violence par les femmes qui est vraiment un usage hyper cathartique, ça m'a énormément fait penser à Bottoms, le film d'Emma Seligman qui est sorti sur Prime il y a quelques mois, qui est un film pareil, un teen movie sur des ados qui, enfin, des filles ados qui vont, grosso modo, lancer un fight club féminin pour, apprendre à se défendre.
Et pardon, et pour choper de la bonne meuf aussi.
Et pour choper. Et qui vont compter avec fierté le nombre de bleus qu'elles ont sur le corps. Enfin, la violence dans Bliss, c'est assez similaire. Enfin, il y a vraiment un truc où le personnage de Bliss, joué par Elliot Page, rentre fièrement avec ses bleus chez elle. Ça se cogne avec plaisir pendant les... C'est pas des matchs, pendant les
pendant
tournois.
Les
Pendant les jams de roller derby. Merci Lisa. Déjà pour l'époque et puis de manière générale, enfin c'est quand même une thématique que je trouve trop cool, ce truc de violence hyper hyper cathartique et vraiment jouissive, quoi.
Ouais, le bleu comme badge d'honneur, c'est vrai qu'il y a vraiment ça dans Bottoms aussi, et que pour une fois que sur des jeunes filles, c'est pas c'est pas des marques de violence faites aux femmes. Ça c'est assez chouette de voir ça. Et même il y a cette scène aussi où justement sa mère qui lui fait faire des concours de beauté lui fait faire une robe sur mesure, et justement elle l'ouvre sa fermeture éclair dans le dos et elle voit cet énorme bleu et le contraste de cette robe genre rose poudrée de petite fille et ce bleu énorme, je crois qu'elle a sur l'aine.
C'est même un hématome ce truc, c'est ouais. Énorme.
Ouais. Et c'est, moi j'avais trouvé ça génial. Et la façon dont le roller derby entre aussi dans le film, le roller derby il arrive comme une apparition. Elle est dans une boutique, dans une fripe où elle achète des chaussures et là d'un coup il y a deux filles qui arrivent comme ça et c'est une apparition, c'est comme un rêve et littéralement le plan il glisse en fait comme le roller. Et là tu fuites, ben moi je me souviens, j'avais 15 ans, je suis tombée amoureuse, je me suis dit mais c'est quoi ce sport, j'ai trop envie de faire ça. En plus ces nanas elles sont hyper, enfin c'était l'idée que je me faisais du cool aussi quand j'étais plus jeune et même en le revoyant maintenant je me dis bah oui c'est la même sensation que j'ai. Et cette idée qu'il n'y a pas une seule féminité convenable, qu'il y en a, elles sont multiples et qu'en plus on peut aussi se faire mal, et comme vous le disiez Diane et Mariana, que ça peut être hyper joyeux parce que c'est vraiment les scouts, c'est vraiment une équipe de loseuses. Elles aiment bien se donner des coups, elles aiment bien manger genre des burgers, boire des bières et tout. Et elles sont assez géniales, quoi. Elles se comportent comme un peu une équipe de rugby. Elles se sautent tout le temps dessus. Le personnage de Drew Barrymore, il fait que saigner du nez. Enfin, c'est pour une fois que le sport n'est pas que du dépassement de soi. Évidemment, il y a toutes ces choses qui sont inhérentes au sport, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup de sororité, beaucoup de camaraderie dans un sport qui est quand même très violent. Et c'est un truc qui est vraiment... qui, pour pratiquer un peu le roller derby, c'est quelque chose d'assez vrai. Il y a une forme de bienveillance parce que c'est un sport dangereux. Cette écoute qu'il y a dans les équipes et tout, qui est vraiment une chose qui existe, qui n'est pas du tout fabriquée par le film. Et c'est assez... Pour avoir revu le film, c'est assez beau.
Oui, et là-dessus, ça rejoint beaucoup notre troisième film, qui est Les Ventées de Lila Alla, qui était sorti l'année dernière. Diane ?
Oui, je trouve qu'il y a un parallèle totalement évident à faire entre les deux. Et justement, en découvrant Bliss pour la première fois et en ayant pour le coup vu Les Ventées avant, j'ai été assez surprise que oui, cette équipe, ça se rejoint dans sa sororité. Enfin, ce sont des femmes combatives, des jeunes filles. Et elles arrivent à être entre elles et à créer du lien. Et en fait, faut se dire aussi que le sport... Enfin, par le collectif, c'est aussi une manière de parler des luttes. Dans Bliss, on le voit aussi. Enfin, c'est que des femmes qui ont été marginalisées et qui se battent pour exister. Que c'est, enfin, dans une petite ville comme ça, c'est un moyen de faire une activité qui est différente et ça leur permet d'être quelqu'un, en fait. Enfin, tout simplement. Et dans l'Event, on va retrouver cette idée de la lutte pour son propre corps.
Bolsa é para jogar no Chile, na temporada.
Eu não quero ter. Só preciso saber como.
Joga a porra do seu futuro no lixo!
Estava tentando fazer um aborto clandestino numa clínica. Et les voisins sont très, très empenhados
en... Puis Les Ventées, donc, il y a un film brésilien qui va se focaliser sur une équipe de volleyball et notamment sur un personnage principal qui est dans l'urgence de devoir avorter. C'est un film qui se focalise beaucoup sur l'importance du collectif aussi.
Oui, c'est ça. Et puis c'est la première fois qu'on voit donc une équipe donc de volleyball dans un pays en plus comme le Brésil où c'est une équipe totalement inclusive, donc une équipe de femmes, donc avec des femmes trans aussi, des personnages lesbiens. C'est une représentation qui est hyper importante aujourd'hui d'avoir cette team là qui est des corps différents, qui avec des personnages racisés. Enfin, je trouve que moi, c'est un film où il y a des femmes devant la caméra qui lead tout le film, mais aussi des femmes derrière. C'est-à-dire que Lila Alla, elle a coécrit ce film avec Maria Elena Moran, que la productrice est une femme et qu'à tous les gros postes techniques, ce sont des femmes. Et avec le fait que l'avortement soit interdit au Brésil et que le personnage se retrouve dans un dilemme comme ça, à se battre pour son corps. Et du coup, en ça, il y a la métaphore du sport, de la lutte, du rapport au corps qui est assez forte, et notamment de la frontière d'un terrain. La réalisatrice joue beaucoup avec ça.
Comme tu le disais, Les Ventées, c'est évidemment beaucoup plus... politique, il est beaucoup plus dans l'urgence, mais c'est vrai que ce serait à peut-être quoi 15 ans de différence, les deux films seraient un peu, elles seraient cousines un petit peu ces héroïnes là, et le film peut-être un peu plus pop de et fun de Barrymore donnerait maintenant un film vachement plus engagé, mais pas en ça parce que le cinéma a changé et tant mieux. Le film de Lila Alla, c'est un très beau premier film qui a malheureusement pas eu l'occasion de rencontrer son public en salle en décembre dernier.
Oui, et l'Éventé rejoint aussi quelque chose dont on a pas mal parlé pour ces deux films, qui est la relation avec les parents, et notamment le père. Dans le film d'Ida Lupino, on est face à une mère vampirique et un père absent. Dans Bliss, la relation avec la mère est quelque chose d'assez houleux, parce que la mère a ses propres rêves qu'elle essaye d'appliquer sur sa fille, tandis que c'est plutôt le père qui va encourager, parce qu'il est lui-même fan de sport, en fait, va se rendre compte du potentiel de sa fille et va l'encourager à aller faire ses compétitions. Dans l'Éventé, la mère est absente, elle est morte, et c'est le père qui va être un adjuvant pour la jeune fille.
Bah déjà, en ça, c'est un personnage masculin dans son écriture assez intéressant, notamment par rapport, encore une fois, au Brésil et à l'image du père patriarche qu'on peut avoir. C'est pas non plus le papa gentil, enfin, il est vraiment hyper complexe, donc enfin, je trouve que c'est un personnage vraiment très très bien écrit. Et il va accompagner sa fille à la fois dans le sport et dans l'avortement. Et c'est assez beau. Et en ça, c'est un personnage très rare, je trouve, au cinéma. Et c'est vrai que c'est un peu le petit plus de ce film-là par rapport aux autres, où sont vraiment des histoires de mère-fille qui, du coup, créent un truc par rapport au film de sport, je trouve, assez particulier, où il faut absolument qu'il y ait... Enfin, c'est comme si c'était une logique du film de sport au féminin, que le tout se joue entre la mère et la fille.
Ouais, ça apporte une espèce de rivalité. Enfin, je trouve que dans le film d'Ida Lupino, c'est là où c'est le plus marquant, parce que pour le coup, c'est vraiment toutes les deux pour la carrière de la fille. Dans Bliss, c'est un petit peu différent, parce qu'on est vraiment décalé sur cette mère qui, elle, veut performer une idée de enfin, la beauté, forcément, ça ouvre les portes de la richesse, de l'élévation sociale et d'autres. Enfin, elle a vraiment d'autres rêves, et sa fille, elle se découvre quelque chose de plus marginal, et le père justement dans Bliss, c'est un peu le pont entre les deux, qui en effet il est quand même en retrait et il a ses propres intérêts, donc lui c'est plutôt le sport. D'ailleurs à la fin, comme son voisin, il met un panneau avec le numéro de maillot de sa fille et tout, c'est hyper beau. Mais c'est vrai que oui, il y a une logique, ouais, de rivalité féminine qui est un petit peu insupportable. Déjà que souvent dans les films sur le sport, il y a cette idée forcément du dépassement de soi, et ça devient quelque chose d'assez toxique rapidement, et c'est un peu dommage que ce soit une espèce de case à cocher dans ce qu'est le film de sport. Et c'est vrai que l'Éventé déjoue totalement ça. Il est plus sur autre chose, ce père qui est apiculteur, et ça enfin la production de miel, évidemment, avec la maternité, tout ça, ça prend tout. C'est un autre sujet ensuite. Mais après, il y a quand même aussi des films où, quand il n'y a pas de figure parentale, c'est la société qui fait office de parent. Et donc, du coup, forcément, il y a toujours cette espèce de rivalité entre la jeunesse et la société établie, qui substitue un peu la figure parentale, quoi.
Et moi, ce que je trouve hyper dommage, c'est pourquoi on ne parle pas du sport autrement. Enfin, pourquoi faire des rise and fall tout le temps? Pourquoi le rapport à la famille? Pourquoi juste pas insérer du sport dans des récits, en fait? Enfin, c'est-à-dire que la manière dont on aborde le sport au cinéma est quand même hyper cliché. Tout ça pour véhiculer des valeurs, de la compétition, de la rivalité, des thématiques sociales. Donc là, les derniers films de sportives étaient des biopics, Marinette ou Flo, donc sur Marinette Pichon, la footballeuse, ou Florence Artaud, la navigatrice. Moi, je me suis dit, enfin, j'aimerais bien, je sais pas, voir justement une Jenny Longo, mais que ce soit pas ce genre la vie de Jenny Longo, enfin, que ce soit des bouts, des extraits de son récit personnel, et qu'on voit le sport en pratique. En l'occurrence, elle est cycliste, et qu'on tourne les récits autrement.
Oui, en plus, les exemples que tu prends, comme tu le disais, Diane, c'est des biopics, donc forcément, il y a ce truc très programmatique du biopic où on se sent la mission de raconter la vie d'une personne, de sa naissance à, si elle est morte, à sa mort, mais ou alors où on pourrait juste prendre des moments clés. Ce qui est un peu dommage dans Marinette, c'est que forcément, c'est très programmatique, et le fait aussi que Garance Marillier, qui interprète Marinette sur quand même la majorité de sa vie, il y a un problème aussi de soit on change de comédienne, soit vraiment, enfin, vrai travail, mais c'est qui nécessite beaucoup plus de moyens techniques pour la faire vieillir. Je n'ai pas vu Flo.
Flo, c'est un film insupportable qui nous fait comprendre que pour être une femme libre, il faut montrer ses seins et s'émanciper, sachant qu'effectivement, Florence Artaud avait un avaient une vie sexuelle libérée, et tant mieux, c'est très bien aussi de montrer ces personnages-là, heureusement. Mais il y a une surexagération de ça via le sexe et la nudité que je trouve vraiment insupportable au milieu des super scènes de navigation, pour le coup.
Oui, je pense que Virginie Verrier sur Marinette aussi, c'était son souci de qu'il y ait beaucoup quand même de scènes de match, et ça, je pense que c'est aussi un manque de moyens financiers. C'est qu'il n'y a pas, enfin, il y en a pas tant que ça des phases de match, mais quand elles sont filmées, il y a un soin qui est quand même donné à représenter ce qu'est la vie de Marinette Pichon, donc c'est-à-dire la pratique du foot. Et c'est une des grosses réussites du film, c'est qu'on comprend tout de suite que le foot, ce sera le grand amour de Marinette Pichon, comme je pense la voile pour Florence Artaud. Mais c'est vrai que c'est peut-être aussi pour intéresser les gens à la pratique du sport au féminin, il y a peut-être aussi ce besoin de passer par des grandes figures de, comme tu disais Diane, de pionnières avec ces deux françaises, mais enfin on a vu aussi quand même qu'il y avait pas mal de biopics, c'est quand même l'apanage des Américains. Peut-être que toi, Mariana, tu pourrais nous en dire un peu plus sur le dernier film.
The haters always say, Tanya, tell the truth. There's no such thing as truth. Everyone has their own truth. I was the best figure skater in the world at one point in time.
You call that a clean skate? Stop talking to her. That girl is your enemy.
Waiting for the breakup
day. Jeff was my first date ever. And my mom came.
You need to see a wholesome American family.
I don't have a wholesome American family.
Nothing's ever your fault. I was embarrassed for you.
My entire life, I've been told I wouldn't amount to anything. And you know what? Maybe I would.
Never could believe the things you do to me.
4.8.
How do I get a fair shot here?
We also judge on presentation.
Donc I, Tonya, ou Moi, Tonya, en français, de Craig Gillespie, qui est sorti en 2017. C'est un film qui va consacrer la carrière de Margot Robbie. En tout cas, c'est le film qui lui vaudra sa première nomination à l'Oscar de la meilleure actrice. I, Tonya, ça a la forme d'un faux documentaire qui revient sur la carrière de la patineuse Tonya Harding. C'est une patineuse américaine qui avait eu un début de carrière brillant en étant notamment la première américaine à réussir un triple axel en compétition internationale. Donc c'est grosso modo faire un saut et tourner trois fois et demi sur soi-même avant d'atterrir sur un seul pied, et qui a ensuite, c'est quelque chose qui a été très médiatisé, qui a ensuite été accusé d'avoir été impliqué dans l'agression de sa rivale, qui est Nancy Kerrigan, qui a été blessée au genou dans le cadre des JO d'hiver de 1994. C'est une affaire qui a été hyper médiatisée à l'époque, déjà parce que elle a conduit au retrait total de Tonya Harding de la Fédération internationale de patinage. Elle n'a plus patiner après ça, mais aussi parce que Tonya Harding elle-même, c'est une figure qui a été très très médiatisée pour son côté très sensationnaliste, très torturé au niveau de son image. En fait, on a beaucoup mis l'accent sur la précarité sociale de laquelle elle est issue, sur sa relation alcoolique avec sa mère, on y revient, qui la battait, qui la faisait travailler pendant des heures pour perfectionner sa technique. Tonya Harding, ça a été aussi l'incarnation d'une certaine précarité américaine, c'est ce qu'on qualifie de un peu de des white trash américains, c'est vraiment la précarité blanche du centre des États-Unis, et qui est en fait très très loin de l'image véhiculée par la discipline sportive qu'est le patinage artistique. Et c'est un fait sur lequel le film va beaucoup beaucoup revenir. Alors pourquoi ce film déjà ? Parce que à titre personnel, moi je trouve que je fais pas du tout de patinage. J'aurais bien aimé, mais ça a l'air trop compliqué. Mais je trouve que c'est un sport qui est hyper cinématographique. Je trouve que c'est un des sports les plus facile entre gros guillemets à représenter au cinéma parce que les effets même de l'art cinématographique permettent vraiment de retranscrire avec beaucoup de précision la sensation de vitesse et la sensation de vertige. On retrouve beaucoup ça dans les films qui parlent de patinage. C'est aussi un sport, on l'a dit, qui est quasi essentiellement féminin dans ses représentations, donc c'est intéressant d'en parler. Mais aussi parce que en fait, quand j'ai revu Aetonia, je me suis dit que c'était assez étrange le fait que le patinage, c'est un sport qui est dans ses représentations au cinéma, qui est très souvent mis en lien avec la précarité émotionnelle de ses héroïnes. En fait, moi, Aitonia, ça a beaucoup résonné avec quelques personnages. Je pense à Cassie dans la série Euphoria, qui est un personnage qui a été abandonné par son père, etc. Et qui a toujours rêvé toute sa vie de faire du patinage artistique. Je pense aussi au personnage de Kaya Scodelario dans une série Netflix qui s'appelle Spinning Out, qui est une série qui est pas incroyable par ailleurs, mais qui en plus a été annulée après une saison, mais qui se concentre sur donc le personnage de Kaya Scodelario, qui est une jeune femme qui fait du patinage à un niveau très élevé, qui est très douée et qui en fait se bat avec son trouble bipolaire qu'elle a elle-même hérité de sa propre mère. Donc il y a des énormes enjeux familiaux, pareil, des mommy issues très très forts dans cette série. En fait, c'est un peu comme si l'image, voilà, très aérienne, très très épurée du patinage, ça, c'était très utilisé dans la narration pour renforcer le contraste qu'il y a avec la précarité, en tout cas émotionnelle, de ces héroïnes. C'est aussi quelque chose qu'on trouve beaucoup, je trouve, dans les récits sur la danse classique. L'exemple que j'ai le plus évident, c'est Black Swan d'Aronofsky, où on a vraiment ça, enfin une discipline très très forte, mais un personnage qui est totalement ravagé au niveau psychologique.
Ouais, ça me fait penser aussi, tu parlais des personnages de patineuse, au personnage de préadolescente d'Elle Fanning dans Somewhere de Sofia Coppola, qui est qui est pas du tout le personnage principal, mais qui est, enfin, c'est un duo père-fille, qui, pareil, est elle aussi ballottée entre des parents divorcés, donc un père, ex-star d'Hollywood complètement alcoolique et complètement solitaire aussi, et qui crée chez cette jeune fille aussi, qui pratique le patinage, cette forme de, on sait pas si c'est un peu son rayon de soleil, Salvateur, ou si elle aussi est plongée dans une profonde dépression, mais ça c'est très inhérent au cinéma de Sofia Coppola. Mais je suis assez c'est vrai que je m'étais jamais fait la réflexion, mais il y a beaucoup ça avec tellement la précision et la grâce d'un sport comme le patinage artistique, qui est un sport de haut niveau, et la danse aussi, et en effet la précarité émotionnelle. C'est pas une expression que j'entends souvent, mais c'est exactement le bon terme.
Ouais, je saurais pas comment le définir autrement, mais c'est toujours des personnages qui sont sur le point de craquer. Il y a toujours un truc un peu comme ça qui en tout cas sont présentés comme étant instables. Et c'est tout à fait le cas dans ce film, dans Aitonia.
Et puis c'est vrai qu'au niveau, en plus là on est sur la glace, donc il y a forcément toujours quelque chose de la vélocité du corps, et puis tu te redescends, et puis il y a toujours moyen que peut-être ça fonctionne pas, et que tu... Mais que globalement, que ça casse, quoi, que tu te prennes un peu un mur. Moi j'avoue que, pour rebondir sur Aitonia, moi c'est pas un film que j'aime beaucoup. Notamment, tu parlais de cette idée du plus ou moins faux, un peu du mockumentary, du faux documentaire pour aborder l'histoire de Tony Harding. Moi, il y a un truc que je trouve très complaisant dans le ton qui est choisi par le réalisateur de ce film pour parler de cette jeune femme, et pour parler de sa mère, et pour parler de sa grande souffrance aussi, parce que c'était Tony Harding, elle était très impliquée avec Margot Robbie dans je sais plus si c'était à l'écriture du film, mais en tout cas sur la saison des récompenses qui s'en est suivie, elles étaient quasiment, c'était son plus un sur tous les tapis rouges, et il y avait cette idée aussi que c'était un peu le dernier tour de piste de Tony Harding, et qu'elle se faisait enfin pardonner par toute l'Amérique, parce que Nancy Kerrigan, c'était la petite chérie de l'Amérique, elle était déjà beaucoup plus, enfin c'est quand même comme le tennis, le patinage, c'est quand même un sport très bourgeois et très blanc et très coûteux, tout ce que n'est pas Tony Harding, mais tout ce qu'est Nancy Kerrigan, qui ressemble plus à une danseuse étoile d'ailleurs, hein, comme on compare souvent les danseuses et les patineuses à des cygnes. Et c'est vrai que Tony Harding, elle a cette force beaucoup plus brute, elle a un patinage qui est très agressif, elle a été beaucoup comparée, enfin on a beaucoup comparé Surya Bonaly, qui était une patineuse noire et qui patinait de façon aussi très très énergique et très agressive comme Tony Harding. Bon, Surya Bonaly, elle a plus eu des soucis, c'était des questions de racisme pour lesquelles elle a un peu arrêté sa carrière, et enfin elle en parle très bien d'ailleurs, mais on peut faire un parallèle avec ces deux patineuses là, et je trouve un peu dommage que justement Craig Gillespie, lui, il il essaye de réaliser un film comme le feraient les frères Coen, quoi, avec des acolytes, avec qui ont un peu des bons mots, un peu pathétiques, et qu'au final on se décentre un petit peu du personnage de Tonya Harding, et que même on se rit de sa souffrance, qu'elle soit psychologique ou qu'elle soit physique, parce qu'il y a quand même beaucoup d'abus physiques dans ce film, et je trouve que moi, qui sont un peu tournés en ridicule et tournés la violence conjugale à la blague, je crois qu'on en a un peu assez. C'est vraiment le personnage de Sebastian Stan, je crois qu'il joue son ex-mari. C'est pas possible, quoi. Enfin, et c'est un film qui est récent, en 2017. Moi, je me souviens, ça m'avait énormément gênée, quand même. Même si je remets pas du tout en cause l'implication de Margot Robbie, qui est une comédienne assez phénoménale. Tu parlais des scènes de patinage, je sais qu'elle a... Elle a fait beaucoup de préparation pour être doublée le moins possible par une cascadeuse, mais il y a quand même tout ce traitement qui est, moi je trouve, qui est abominable.
Diane ?
Oui, puis on oublie vite le patinage, je trouve. Alors, en l'occurrence, je trouve les scènes de compétition hyper belles. Mais même quand tu t'en parlais, enfin du fait de chuter, enfin on la voit rater, on la voit, et je trouve ça assez intéressant, et le ce rapport au jury finit par lui dire, en fait elle ne gagnera jamais plus parce qu'elle représente le contraire, comme tu disais, d'une patineuse féminine, etc., tout ce que ça implique. Mais ouais, moi je trouve qu'une fois qu'on a passé la moitié du film à comprendre qui était Tonya Harding...
Oui, parce que toute la deuxième moitié du film est vraiment focalisée sur le scandale autour d'Nancy Kerrigan, et si oui ou non elle et son entourage étaient impliqués dans cette affaire ou pas. Oui, ce qui a même suscité l'intervention du FBI pour enquêter.
Ouais, savoir qui avait pété les genoux de Nancy Kerrigan, c'était
une
affaire d'état. Quoi.
C'est ça, et cette enquête avec les interviews, enfin moi c'est vraiment un dispositif que je ne supporte pas du tout. Et je trouve qu'on oublie complètement le film. Pour finir par contre sur une très belle scène à la fin, mais...
Oui, parce que une des dernières grandes scènes de patinage du film, c'est une scène très connue de patinage de Tonya Harding. C'est une de ses dernières performances où il y a tout un truc parce qu'elle est elle-même très stressée de base, puis elle a un problème avec son lacet. Donc d'abord elle rate ses tours, ensuite elle va voir le jury pour leur montrer, pour leur dire que je peux recommencer, etc. C'est une séquence qui est très très connue, qui est très facilement trouvable sur YouTube et qui là est retranscrite avec une Margot Robbie que je trouve absolument admirable, parce qu'il y a cette scène où elle est en train de se préparer juste avant d'aller sur scène, où elle sait de base que peut-être elle est déjà très très fragile psychologiquement, parce qu'il y a tout ce scandale-là qui la rattrape, alors où en plus le film prend le parti de dire qu'elle même n'était pas vraiment impliquée, que c'était une décision de son mari, avec son ami, qui sont effectivement assez tournés en ridicule là-dessus, et qui du coup vont lui faire subir à elle en fait les conséquences d'une idée qui est partie d'une idée complètement débile de la part de son mari. C'est en tout cas ce que le film affirme de manière assez convaincue. Il se passe tout ça, et donc juste avant de monter sur la glace, il y a Margot Robbie qui se prépare et qui se met du maquillage sur les joues et qui pleure en souriant à la caméra. Alors des plans de femmes qui pleurent devant des miroirs, il y en a beaucoup, et je parlais de Cassie dans Euphoria, il y en a un dans la deuxième saison qui est très connu aussi, mais là c'est moi j'étais vraiment bluffée, il y avait quelque chose d'absolument effrayant aussi dans ce... Enfin, il y a un jeu de couleurs de noir, de bordeaux, enfin, avec elle qui pleure en se regardant et en souriant dans la glace. C'est une des plus belles scènes du film. C'est une des plus belles scènes de prestation, je trouve, de Margot Robbie tout court.
D'ailleurs, c'est un plan qui ressemble beaucoup aux chaussons rouges. Ses yeux avec ce maquillage, vraiment ce regard avec les larmes qui sont à deux doigts. Enfin, c'est des plans assez marquants.
Qui sont très silencieux cinéma, aussi. Ouais. Enfin, là, c'est le silence total. Il y a vraiment quelque chose qui est très saisissant, en fait, qui te prend au trip.
Tu parlais de Black Swan, Mariana, il y a aussi énormément de plans de miroir maquillage dans Black Swan, qui pour le coup s'inspire des chaussons rouges de Paul Pressburger.
Qui ne fait que...
Et puis même pour Margot, on parlait de Margot Robbie, c'est un peu sa pré-shot aussi, où je sais plus si elle avait déjà joué Harley Quinn, mais il y a aussi ce côté, ça devait être avant Birds of Prey, mais après Suicide Squad, il y a ce côté où c'est un peu clown tragique que Margot Robbie, qui est le plus grand apport de Suicide Squad, c'est quand même sa prestation d'Harley Quinn, et il y a ce petit parallèle entre ces deux films qui sortent l'un à côté de l'autre, en fait. Mais c'est vrai que sur les films précédents, on a beaucoup parlé des figures parentales, et notamment des figures de mère absente ou omniprésente, et c'est quand même, Mariana, le cas aussi pour pour Aitonia.
Oui, bah là, dans Aitonia, c'est le sujet du film, si ce n'est le patinage artistique, c'est, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est la relation qui a été rendue très sensationnelle, c'est la relation qu'avait Tonya Harding avec sa propre mère, qui est présentée de manière unanime et sans équivoque dans le film comme un bourreau absolu, qui est incarné par Alison Janney, qui vraiment, lui donne un ton à la fois burlesque et horrifique. Enfin, j'ai trouvé, honnêtement, enfin, hors la question de la condescendance sur l'aspect social, mais j'ai trouvé qu'en tout cas, c'était un personnage qui était très bien interprété là-dessus. Enfin, je l'ai trouvé hyper, hyper efficace. En plus, le côté burlesque est là, parce qu'elle est toujours avec ses espèces de fausses fourrures et ses perruches. Enfin, c'est vraiment un personnage qu'on ne voit nulle part, enfin, que je n'ai jamais vu dans le cinéma. Lisa.
Bah, c'est plus un personnage qu'on verrait, moi je pensais à des émissions de télé-réalité type Dancing Mom ou même La Famille Kardashian, elle a ce truc un peu de momager, ce qu'on appelle les mamans manager, bon là de façon quand même très abusive, mais c'est vrai qu'elle est vraiment too much à l'américaine, comme on pourrait, enfin c'est un personnage sorti de télé-réalité en fait, c'est assez impressionnant. Et puis Alison Janney, c'est ce qui est une très grande comédienne, on parlait d'Elliot Page, elle jouait sa belle-mère dans Juno.
Oui, effectivement, c'est pas du tout anodin en plus que ce soit dans un genre cinématographique où les personnages s'expriment face caméra la moitié du temps, donc ça rejoint totalement ce côté télé-réalité là. Et c'est vrai que pour rebondir sur cet aspect de complaisance, alors je suis assez d'accord sur ce que tu dis, Lisa, au niveau des violences, des représentations des violences conjugales. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas le même traitement vis-à-vis des violences perpétrées par la mère sur la fille et des violences conjugales qui dans le film sont présentées comme étant quelque chose à double sens. Je trouve que c'est un procédé narratif qui ne marche pas, parce que là où l'humour essaye de placer les deux sur un même pied d'égalité, en fait, le personnage de Tonya Harding est dans la défense, là où son mari est dans l'action de l'agressivité. Donc c'est quelque chose qui ne marche pas à propos de ce ton-là. En revanche, les scènes de violence de la mère sur la fille sont elles aussi traitées avec une forme pareille d'humour très grinçant, mais je trouve que là c'est un peu plus efficace. Enfin, moi en tout cas, c'est quelque chose qui m'a un peu plus touchée, parce que je trouvais que c'était un humour qui ne mettait pas à distance, enfin qui apportait en fait une autre dimension et qui était dans le ton général du film, qui est cette espèce de truc très grinçant mais aussi très très cruel. Et je trouve que la manière dont la violence est utilisée de la mère sur la fille n'enlève aucunement la cruauté de cette relation. Enfin, c'est un ton qui est assez osé et qui peut laisser des gens de côté, mais moi je trouve que c'est efficace sur ces scènes là en tout cas.
Moi je serais plutôt d'accord, mais c'est vrai que c'est un peu, enfin en fait c'est le fait qu'on ait laissé à tout le monde ce terrain pour pratiquer la violence comme tous les personnages d'idiot dans les frères Coen, sauf que dans les film des frères Coen, il y a une contrebalance à ça, il y a une forme, c'est un peu la loi de Murphy, quoi, il y a toujours ce qui doit arriver, arrive, et que ce soit pour les justes ou pour les idiots, mais là, il se trouve que c'est quand même, moi, ça me dérange beaucoup, et même si c'est... En fait, ce qui est dérangeant, c'est que c'est quelque chose qui est arrivé à Tonya Harding, elle a subi des violences intrafamiliales, des violences conjugales, mais le fait qu'on utilise ce ton pour se décaler et rendre ça un peu, même se rendre un peu intelligent et un peu, moi j'ai une impression de supériorité dans la position du réalisateur que vraiment je trouve vraiment dégueulasse pour le coup, même si je suis assez d'accord sur la façon dont c'est traité sur les relations mère-fille, où c'est un petit peu plus juste, on va dire.
Et ça, c'est justement dans l'écriture du personnage de la mère, comme tu le décrivais bien, Mariana, où, du coup, avec une sorte de truc fantasque, qui fait que, du coup, tu peux mettre de l'humour sur de l'agressivité, parce qu'elle est ridicule tout le temps, et clownesque, en fait, mais rien que physiquement. Là où son compagnon, dont j'ai oublié le nom, en fait, il est juste pathétique. Non, mais il y a un truc de loser, tu vois. Et en fait, le fait de rire de ça, de cette violence à ce moment-là, et en fait, c'est comme si, dans son dispositif de montage, Il rendait ça drôle, la répétition des violences conjugales.
Oui, oui, bah, c'est vrai que globalement, je suis assez d'accord aussi. Il y a beaucoup de choses, je trouve, très bonnes, et notamment le personnage de Margot Robbie. Et je trouve aussi l'écriture de Tony Harding qui échappe un peu à la condescendance générale. Je trouve que c'est le seul personnage où, tu parlais tout à l'heure, Lisa, de rédemption. Je trouve qu'il y a beaucoup de ça aussi. C'est le personnage le plus attendrissant du film, parce que c'est le seul qui échappe, je trouve, à ce regard-là. Mais c'est vrai que, de manière générale, il y a quand même un regard surplombant sur tous ces personnages qui peut rendre la démarche effectivement très agaçante.
Puis sur le Texas, en fait. Enfin, c'est les plouks.
Oui, on est au même endroit que Bliss, mais pas du tout. Enfin, on est vachement plus violent dans l'étude sociologique, qui est beaucoup plus cliché, je trouve aussi pour le coup. Alors que je suis vraiment Bliss, c'est vraiment tout esquissé. Mais là où le film de Craig Gillespie réussit, et vous le disiez, Marianne Hayden, c'est dans les scènes de patinage où il y a vraiment un soin qui est apporté, comme je trouve dans le film de Barrymore sur les scènes très immersives de roller derby, comme dans le film de Lupino où il y a une tentative avec le matériel des années 50, de filmer la discipline en elle-même. On a cité Marinette, on a cité Flo, je pense qu'il y aurait d'autres films aussi à citer sur la pratique filmée du sport et l'attention que les réalisatrices et réalisateurs portent dessus.
Le vrai problème, ça, c'est-à-dire que les points positifs finalement de ce film-là, c'est d'arriver à faire des tentatives de montrer le sport là où ils ratent en fait leur portrait, la plupart du temps, leur portrait de jeunes femmes en l'occurrence, de femmes, de récits qui vont être beaucoup plus classiques. Et du coup, on attend encore des films où des réalisatrices vont s'emparer du sujet du sport pour raconter autre chose avec d'autres points de vue, tout en continuant de bien filmer la pratique sportive au cinéma.
Et côté production française, il faut aussi citer Slalom, le film de Charlène Favier qui a été repoussé plusieurs fois à cause du Covid, qui est sorti en mai 2021, qui là va se concentrer donc sur le ski. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille de 15 ans qui intègre une section de ski ski études dans son lycée. Et Slalom, ça va vraiment se concentrer sur la relation entre cet élève et son coach, qui est incarné par Jérémy Régnier, qui va être une relation d'emprise, qui va dériver sur des agressions sexuelles et sur du viol. Ce que je trouve intéressant dans ce film aussi, donc qui se focalise vraiment sur cette relation avec son coach et qui va vraiment montrer en fait à quel point ce coach-là substitue en fait l'autorité sous toutes ses formes sur la vie du personnage qui est donc incarné par Noé Habitat. Ça va être à la fois son parent, un peu sa mère aussi, dans le sens où il va la suivre dans l'arrivée de ses premières règles, sur la métamorphose de son corps à l'adolescence, etc. Donc ça, je trouve que c'est un film qui se focalise assez bien là-dessus et sur du coup l'entrée dans une emprise et la difficulté d'en sortir. Le film va se clore sur la possibilité du personnage, le fait qu'elle va enfin réussir à dire non après l'existence de cette relation.
Oui, non, ça fonctionne très bien sur le de montrer le rapport au coach, justement. C'est beaucoup de coachs, je pense, masculins qui ont pu prendre des jeunes sportives sous leurs ailes avec cette question justement quand même de séduction et d'emprise sur des jeunes filles dont il faut gérer la carrière et à la fois la vie perso et le corps en fait, enfin le rapport au corps, puisque qui dit sport dit évidemment plein de choses liées au corps. Donc je trouve que en ça le film le montrait bien toute cette question là.
Corps et un corps qui se transforme aussi, c'est beaucoup ça le sport. Il y a aussi une question de sculpter le corps en transformation, notamment en plus là elle est adolescente, donc il y a vraiment cette double transformation là qui s'opère. Lui est vraiment impliqué là dedans à tous les niveaux, donc c'est quelque chose qui est assez bien retranscrit dans le film, je trouve. Lisa.
Et oui, Diane, toi, tu parlais tout à l'heure de ce traitement aussi. C'est un film quand même slalom très moderne parce que oui, il traite de l'emprise et des violences sexuelles faites aux jeunes femmes. Et c'est vrai que, à l'ère, après les révélations de MeToo, c'est plein de récits qui ont commencé comme ça à sortir et qui continuent à sortir. Bon, là, on sort de la discipline du sport, mais qui continuent à sortir à l'heure actuelle. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, vous parliez justement de la relation avec l'entraîneur, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sportifs ces dernières années qui ont brisé le silence et qui ont parlé des agressions qu'elles avaient subies dans des sports de haut niveau, comme dans le patinage par exemple. Je crois que c'était Nathalie Péchala qui parlait d'un de ses entraîneurs à ce sujet. Slalom, je pense que c'est, comme tu disais, très important de le mentionner parce qu'il amorce aussi une nouvelle écriture de ce que c'est le sport, enfin le sport vu par le cinéma, et là en plus vu par parce qu'on a cité, bon, à part Creek Gillespie, on a cité quand même beaucoup de réalisatrices qui filment des jeunes femmes, et Charlène Favier qui filme Noé Habitat et qui apprend justement à sortir de cette emprise et à dire non, c'est quand même pas anodin à l'époque à laquelle on est.
Et c'est une très bonne manière de conclure ce petit état des lieux sur la représentation des femmes dans le sport, dans le cinéma. Merci beaucoup les filles d'avoir participé. Merci Diane, merci Lisa.
Merci à toi.
Merci Marina.
Et merci à vous, chers auditeuristes, d'être restés jusqu'au bout de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, de nous laisser un gentil commentaire et un gentil 5 étoiles sur Apple Podcasts. On se retrouve en avril à l'occasion d'un cycle organisé par la Cinémathèque du documentaire autour des archives du Centre Simone de Beauvoir, qui, pour rappel, recueille notamment les archives de Delphine Seyrig et Carole Roussopoulos. À bientôt.